Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1 et nous avons le vif plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'Hervé Kempf, journaliste pour Le Monde, qui est de passage à Québec actuellement. Il nous avait offert, il y a quelques années, le livre « L'essai, comment les riches détruisent la planète ». Et cette année, il nous revient avec une autre réflexion. Pour sauver la planète, sortez du capitalisme. Une réflexion parfois dure, mais aussi durement nécessaire dans les temps et surtout dans l'urgence que nous connaissons actuellement. Hervé Kempf, merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben avec plaisir.
Et peut-être si on se lance immédiatement, là, actuellement, c'est difficile de ne pas avoir un petit côté alarmiste quand on regarde l'actualité. On parle de crise alimentaire, de crise financière, de crise écologique, une crise globale au bout du compte. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a urgence d'agir actuellement?
Ben oui, c'est pas être alarmiste que de décrire la situation. Et la situation, surtout sur l'aspect de la crise écologique, est tout à fait importante, même si dans nos vies quotidiennes, c'est pas tout à fait sensible. Là, on se parle là, dans un coin de Québec qui est agréable, le ciel est bleu, il fait assez bon, il y a des voitures dans la rue, des magasins, tout le monde a l'air tranquille. Donc on se dit, mais attends, le changement climatique, la crise de la biodiversité, la pollution, c'est quoi tout ça? Mais même si c'est pas tout à fait sensible quotidiennement, en fait, on est engagé dans une crise écologique de dimension historique, c'est-à-dire que jamais dans l'histoire de l'espèce humaine on a été confronté à cette situation qu'on peut caractériser comme le fait que la société humaine est confrontée au mur des ressources, est confrontée aux limites de l'écosystème, est confrontée aux limites de capacité de régénération de la biosphère. Et si on dépasse ce seuil, et on sait que ce seuil maintenant est très proche de nous, on est en zone rouge écologique, si on dépasse ce seuil, que ce soit en matière de changement climatique ou que ce soit en matière de biodiversité, on ne pourrait plus après revenir à l'équilibre de l'écosystème et donc à l'équilibre de nos sociétés. Donc c'est pas être alarmiste que de relayer tout le travail des scientifiques depuis une vingtaine d'années qui a toujours été dans le même sens et qui confirme ça, que nous sommes en situation difficile. Donc à partir de là, soit on ferme les yeux et on dit mais non, tout va bien, on va continuer comme avant, soit on dit bon là il faut qu'on change. Alors ça s'articule avec la récession économique, ce que la pensée dominante appelle la crise, qui est paradoxalement une bonne nouvelle. Je suis désolé de dire ça, après on va en discuter, mais c'est une bonne nouvelle au sens où ça permet d'alléger la pression sur la biosphère. En 2008, pour la première fois depuis très longtemps, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué, notamment en Europe. Ben pourquoi ? Parce qu'il y a eu un ralentissement économique. Alors la question maintenant, c'est de faire en sorte que cette récession économique se transforme, devienne plus exactement une transformation sociale, soit l'occasion d'une transformation sociale pour nous permettre d'aller vers une société écologique, agira vraiment en fonction de ce seuil de danger écologique duquel nous sommes tout proches, et qui aille, mais ça va de pair, on va peut-être en parler, avec une politique vraiment sociale qui soit axée sur la justice, sur diminuer fortement l'inégalité. Donc voilà, là l'enjeu, c'est de faire en sorte que la situation économique très difficile et nos schémas de pensée qui sont en train de changer s'orientent dans le bon sens.
Oui, parce que c'est faux d'imaginer un peu tout en vase clos. En fait, l'écologie dépend de l'économie, l'économie dépend de l'écologie, le social dépend de tout ça. Il y a des gens qui me disent, mais regardez, la crise actuelle au niveau financier, c'est une opportunité aussi de réinventer le système. On voit les failles d'un système capitaliste qui ne peut pas nécessairement tenir la route non plus et qui, globalement, va nécessiter une réinvention, une adaptation à tout le moins pour pouvoir répondre aux défis écologiques auxquels on fait face aussi.
Oui, alors ce qu'il faut quand même bien préciser, c'est que cette adaptation, elle doit se faire sous l'œil, j'allais dire, de la justice sociale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation qui n'aurait pas changé depuis 50 ans. On est dans une situation où les inégalités ont cru énormément depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'avant, dans ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, il y a eu un très grand essor économique, mais grosso modo, la répartition de la richesse collective, l'accroissement de la richesse collective, se faisait de manière équilibrée entre le capital et le travail. Depuis 1980, il y a eu une augmentation constante de la part qui était prise par le capital et une augmentation beaucoup plus faible de la part prise par le travail, si bien que les inégalités se sont énormément accrues. Et donc, la spéculation financière énorme qu'on a vu se développer et qui a commencé à s'effondrer depuis 2007 était en fait le moyen qu'a trouvé l'oligarchie, qu'ont trouvé les classes dirigeantes, qu'ont trouvé les capitalistes pour répartir différemment le surcroît de la richesse collective. Donc ça nous a fait entrer à la fois dans une très grande inégalité et dans une situation d'endettement généralisé qui est extrêmement grave. Donc il nous faut réguler le système financier. Ça veut dire aussi concrètement qu'il faut que l'État, c'est-à-dire la collectivité, les contribuables, l'ensemble des contribuables, reprennent le contrôle des banques pour les faire agir dans le bon sens et empêcher cet endettement catastrophique, lutte contre les paradis fiscaux, empêche en quelque sorte l'évasion fiscale, et puis troisième chose, qu'on réduise très fortement l'inégalité, c'est-à-dire que, moi je reprends l'idée de certains Français comme Patrick Vivieret, d'un revenu maximal admissible, c'est-à-dire dire il est peut-être possible que des gens gagnent 10, 20, 30 fois plus que d'autres, que le revenu moyen, mais qu'ils gagnent 500 ou 1000 fois plus, ça n'a aucun sens, et il faut changer cette situation.
Et quand on regarde un élément comme ça, justement, on dit, ben regardez, il faudrait faire des sacrifices, il faudrait que des gens disent, ben j'en ai assez pour vivre avec X millions de dollars, j'ai pas besoin de gagner 1,2 milliard de dollars par année. On demande des sacrifices. Est-ce qu'on a l'impression que les gens sont prêts à sacrifier leur confort à court terme, même si leur confort dépasse les bornes de l'acceptable, pour la survie de l'espèce et la survie de la planète à long terme? Est-ce qu'on est capable d'avoir cette vision-là collectivement? D'après vous?
Je sais pas, moi je trouve le terme de sacrifice un peu bizarre. Est-ce que c'est sacrifier de se dire je n'achèterai pas un nouvel écran plat, je ne remplacerai pas ma voiture et même j'essaierai de prendre plus le bus. Est-ce que tout ça c'est des sacrifices? Excusez-moi, mais à mon avis ça n'a pas de sens. C'est changer son mode de consommation. Alors après, une fois de plus, le sacrifice que la société va demander à M. Desmarais, pour prendre un exemple au hasard, et pas le même changement qu'on va demander au dépanneur du coin de la rue ou à la personne qui travaille à l'hôpital comme infirmière. Ça n'a pas de sens. Donc il faut aussi considérer que globalement nos sociétés, particulièrement les sociétés riches, la France, le Québec, le Canada, les États-Unis, le Japon, l'Angleterre, nous devons réduire notre consommation matérielle parce qu'il faut que nous réduisions notre empreinte écologique globale. Et donc, ça va être un effort de tout le monde, un changement d'habitude de tout le monde, mais des classes moyennes et des classes supérieures, parce que les classes les plus pauvres, les gens qui gagnent moins de, je ne sais pas, 1000 dollars par mois, on ne va pas leur demander de réduire leur consommation. En revanche, tous ceux qui gagnent, voilà, je ne vais pas donner de chiffres, mais toutes les classes moyennes, les deux tiers de la population, oui, il faut qu'on aille vers une réduction de la consommation matérielle. Mais il faut surtout que cette réduction de la consommation matérielle soit entraînée par le haut. C'est-à-dire que la réduction de la consommation matérielle, donc la réduction de l'enrichissement abusif par le sommet de la société, lui, doit être beaucoup plus fort. À la fois pour changer les modèles culturels de surconsommation, qui sont exhibés par tous ces gens qui ont des yachts, qui ont des châteaux immenses, qui ont des bijoux, enfin que sais-je, pour faire en sorte que ce changement de mode de vie et de consommation par l'ensemble de la société soit accepté par les classes moyennes, notamment. C'est-à-dire que les classes moyennes, vous, moi, je pense, on accepterait mal de changer notre mode de vie si au sommet, il y avait toujours les milliardaires et tout ce genre de personnes qui changeaient, eux, absolument pas. Donc, pour que cet effort soit partagé, il faut qu'il soit réellement partagé. Et la troisième chose, c'est que ce déplacement de la richesse collective, on devrait d'ailleurs parler de réappropriation de la richesse collective. Parce qu'on peut dire, en fait, que l'enrichissement énorme qui s'est produit par l'oligarchie depuis une vingtaine d'années, c'est un vol. C'est un vol sur le travail de la société. Eh bien, cette réappropriation de la richesse collective que la société va faire, on va, d'une part, l'affecter pour aider ceux qui sont dans la situation difficile, qui vont se trouver au chômage en ce moment à cause de la récession, etc., de les aider à passer ce mauvais cap, à la fois financièrement, pour qu'ils puissent payer leur loyer, et puis nourrir leurs enfants, puis éventuellement qu'ils se forment à d'autres métiers, puis surtout qu'on réinvestisse cette somme énorme dans des activités à faible impact écologique qui correspondent à un vrai besoin social et qui créent de l'emploi. Et là, eh bien, la santé, où il y a dans tous les pays des besoins énormes, l'éducation, la culture, une autre agriculture, une autre politique de l'énergie, sans doute une autre politique de transport aussi.
Donc ça force un peu en fait une redéfinition de la manière qu'on perçoit le développement économique, parce que présentement, ce qu'on nous dit avec le système qu'on connaît, c'est qu'il faut qu'il y ait une croissance, dans le fond, d'un certain pourcentage à chaque année pour que le PIB continue de fonctionner, pour que l'économie se tienne. Alors, il faudrait se dire éventuellement, ben regardez, il ne faut pas viser une croissance, il faut viser un plateau, il faut répondre à nos besoins, et à nos besoins réels, plutôt qu'à des besoins factices imposés par ce système-là.
Absolument. Hier, j'ai regardé la télévision, ce qui m'arrive assez rarement. J'étais surpris, je regardais une émission assez distrayante d'ailleurs, j'étais surpris que tous les quarts d'heure, il y avait 4 minutes de publicité. Alors c'était achète une nouvelle voiture, alors beaucoup de publicité pour les voitures. Achète, si tu vas chez telle grande compagnie de distribution, un grand magasin, tu auras pour pas cher du tout des tables de jardin, et puis en plus tu pourras te payer le barbecue. Achète des produits pour avoir les dents blanches, achète ceci, achète cela. Enfin, c'est du délire. Soyons clairs, on peut même dire que les pays développés n'ont plus besoin de se développer. Le Québec, la France, les États-Unis n'ont plus besoin de se développer. On a assez d'autoroutes, on a assez de voitures, on a assez de maisons. En revanche, comment est-ce qu'on réagence tout ça pour faire une société qui soit plus humaine? Parce que ce qui est frappant en même temps, c'est que dans ce développement vers lequel nous entraîne sans arrêt l'oligarchie, ça fait une société qui est quand même de plus en plus malheureuse. Où finalement, il y a peut-être beaucoup de biens de consommation, mais il y a un affaiblissement progressif de toutes nos structures d'aide collective. La santé, l'éducation notamment, qui sont de plus en plus privatisées, parfois même aussi la sécurité, avec de plus en plus de milices privées et de policiers privés. Mais voilà, donc on a des domaines qui sont extrêmement importants pour la vie concrète des gens. C'est comment je vais me soigner, comment je vais aller chez le dentiste, comment mes parents ils vont être bien soignés, comment est-ce que mes enfants ils vont faire des études, comment... Vous voyez, tous ces problèmes très concrets de la vie des gens, qui en fait sont de plus en plus mal gérés et rendus difficiles, au moins pour les plus pauvres, parce que les riches, ils s'en sortent toujours, il n'y a pas de souci pour eux, hein, on ne s'inquiète pas. En revanche, pour une grande partie de la population, ça devient de plus en plus difficile, mais on tourne l'attention des gens vers l'enrichissement, le développement, la consommation. Mais non, on n'a pas besoin de nouveaux barbecues ou de nouveaux meubles pour nos jardins, quand on a un petit jardin. On a besoin d'avoir une bonne éducation pour nos enfants, d'avoir une bonne santé pour nos parents, pour nous, etc. Donc c'est là-dedans qu'il faut investir, et ça, je pense que je me rends compte de plus en plus quand on discute très simplement avec les gens, ils disent « bah oui, au fond ». Ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de ces choses-là simples et d'investir plus là-dedans. Puis un mot encore, mais vous me faites beaucoup parler, donc je ne veux pas monopoliser la parole, mais un mot aussi, c'est substituer un peu ce désir individualiste vers lequel on nous tire avec toutes ces publicités à la télévision, par exemple, ou ces personnages, ces stars, ces people qu'on nous présente dans les magazines. Donc on nous oriente vers un individualisme. Si tu as un écran plat, si tu as tel habillement, si tu as telle voiture, c'est toi, tu seras fort, tu seras grand, tu seras beau, tu séduiras les femmes, enfin, voilà. Et l'inverse, d'ailleurs, pour les femmes, hein, y a un discours publicitaire qui est aussi orienté, évidemment, vers nos compagnes. Mais en revanche, on a de moins en moins de liens sociaux. Et je pense que de plus en plus, et même dans une société comme le Québec, je suis surpris parce que je viens assez régulièrement au Québec, et là, beaucoup depuis 10 jours, on me dit ça, mais la société, elle est moins solidaire qu'avant, les gens se voient moins, ils sont plus fermés sur eux-mêmes. C'est pas seulement qu'au Québec, je vous rassure, en France, c'est pareil, aux États-Unis, c'est pareil. Eh bien, je pense qu'on peut tous, on ressent tous ce besoin de retrouver du lien social, de l'échange humain, de la discussion, de jaser tout simplement, plutôt que d'avoir tous ces objets. Et ben moi je dirais, on n'a plus besoin de développement économique, on a peut-être besoin en revanche, parce que le terme de développement est important, mais de développement personnel, d'épanouissement social, de développement de la communauté.
J'aimerais qu'on revienne un peu sur la question de l'individualisme qu'on a évoqué tout à l'heure, surtout face à la situation actuelle. Par exemple, je pense à la crise financière. On pense à la crise financière en disant, ben, c'est un impact sur mon emploi, sur mes économies, sur mon argent. La crise écologique, on la voit aussi de la manière que moi, en tant qu'individu, je peux agir, mes actions, mon compostage, etc. Donc, on a tendance à toujours ramener à nous-mêmes et à oublier qu'on fait partie d'un collectif ou à se déresponsabiliser en disant « mais c'est le collectif qui doit agir, donc moi, seul, je ne peux rien y faire, le collectif n'est pas là, donc je ne peux rien faire ». Ce virage individualiste-là aussi a des conséquences, j'imagine, sur l'action qu'on peut poser, sur les gestes qu'on fait, sur le regard qu'on a aussi sur ces questions-là.
Oui, et puis je dirais même aussi, il faut porter la question sur le débat politique, clairement. Parce que ce n'est pas seulement si vous et moi, on prend le vélo, ou on va en bus à notre boulot, et puis que voilà, on fait attention à tout ce... Même s'il faut le faire, évidemment, hein, et dans sa vie personnelle, autant que possible, il faut essayer de se désaliéner de la consommation, parce que c'est une vraie aliénation, il faut essayer de vivre plus sobrement, mais c'est à l'échelon politique que ça joue quand même, et c'est là, cet échelon qu'il ne faut pas oublier. Je vais prendre un exemple. Par exemple, M. Charest, votre Premier ministre, il parle d'un plan Nord qui consisterait à développer, donc à saccager, soyons clairs, l'exploitation minière, les barrages, les routes dans le nord du Québec, au nord du 49e parallèle. Mais en fait, d'abord, en soi, ça pose un problème écologique énorme, donc je pense que là encore, il ne faut pas se développer dans ce coin-là comme dans d'autres. Mais Dans la même semaine, là, cette semaine, j'ai lu un article dans Le Devoir sur un rapport, je crois, du vérificateur général sur la façon dont les compagnies minières payent ou ne payent pas des redevances au Québec. Et j'étais stupéfait d'apprendre qu'en fait, le Québec qui a énormément de richesses minières, eh bien, les compagnies payent très peu de redevances et respectent très mal les lois sur l'environnement. Je me dis que là, avant même de parler de développement du plan Nord, mais on se dit, ok, on reprend la donne pour toutes ces compagnies minières, on regarde comment ils se sont enrichis, qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent et qui est-ce qui paye les redevances? Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de redevances presque au Québec, d'après cet article, que dans des pays colonisés? Vous voyez, il faut porter la question sur le plan politique. Cette richesse collective, comment elle est gérée, comment elle retourne au peuple, comment elle nous sert à faire une société plus juste et plus écologique.
Et Hervé Kempf, face à ça aussi, il y a toute la question des ressources énergétiques qui sont une richesse en soi. Comment on gère tout ça? Parce qu'en même temps, je prends l'exemple dans votre livre « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme », vous dites, ben, par exemple, l'éolien qui est vendu comme une solution, mais dans la réalité, il est géré comme une partie du problème au bout du compte. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu dans cet élément-là et comment on devrait gérer l'éolien versus la façon dont il est présenté actuellement?
Ben, en grande partie, l'éolien est poussé par des grandes compagnies. Il n'est pas du tout approprié par les communautés comme on pouvait le penser ou le rêver dans le grand courant de l'écologie politique des années 1970, qui était beaucoup plus politique au bon sens du terme que maintenant, qui pensait beaucoup plus à la société, qui disait « il faut se réapproprier les techniques ». Une technique, ce n'est pas bon ou mal en soi, c'est la façon dont la société le vit qui la rend utile ou pas. Or, ce qu'on voit dans l'éolien, c'est que d'une part, c'est dans la très grande majorité des cas mis en œuvre par des grandes compagnies qui visent explicitement le profit maximal et qui, dans le même temps, éventuellement, feront des centrales thermiques au charbon, feront des centrales nucléaires, enfin, feront du pétrole. Elles s'en fichent complètement. Vous pourrez avoir une société qui investira dans le sable bitumineux et qui, en même temps, se diversifiera dans l'éolien, ce qui manifeste une contradiction totale. Mais justement, je pense à la société Total, qui est une société française, qui a typiquement cette démarche. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on nous dit à l'éolien... ce qui est sûr en soi, c'est bien l'éolien. Mais ça permet à ceux qui le promeuvent sans arrêt aux grandes compagnies d'éviter de poser la question énergétique et de dire en priorité qu'il faut réduire nos consommations d'énergie. Donc moi, j'entends toujours développer l'éolien ou développer le solaire, etc. Ce qu'il faut sans doute faire. Mais comme on ne met pas en avant la nécessité absolue pour les pays riches, pour les pays développés, de réduire leur consommation d'énergie, c'est en fait un alibi pour ne rien changer au système. Parce que si on prend la question du changement climatique au sérieux, et si on prend aussi la question de l'inégalité dans le monde, parce que là, on a parlé de l'inégalité à l'intérieur de nos pays, il faudrait aussi parler de l'inégalité entre les pays du Nord et les pays du Sud, qui s'est énormément accrue depuis une trentaine d'années. Eh bien, il faut que ce soit nous qui fassions le premier pas en matière de changement climatique, de prévention du changement climatique. Et le premier pas à faire, c'est de réduire notre consommation d'énergie par des économies d'énergie, le terme doit pas être tabou, ensuite par l'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire en sorte que les choses dont on aura besoin quand même, les voitures, les machines, les maisons, elles consomment moins d'énergie tout en assurant le même service. Et puis troisième position, on a des énergies nouvelles. Et là, c'est pas seulement l'éolien, d'ailleurs, c'est la géothermie, c'est la biomasse, c'est le bois, c'est le soleil. Il y a toute une gamme qui va se développer de plus en plus. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de bien mettre l'accent dans nos politiques de l'énergie sur les économies d'énergie. Et malheureusement, je ne vois pas assez dans le discours favorable aux énergies nouvelles cette priorité absolue mise.
Oui, mais ça renvoie un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité de se développer, dans le fond. Donc, il y a toujours, on planifie toujours, dans le fond, en fonction qu'il y a des besoins accrus qui s'en viennent et qu'il va falloir développer l'offre énergétique à place de simplement remplacer ce qui est disponible par une offre qui est moins polluante.
Exactement, exactement. On est toujours dans une logique d'offre, de production, de toujours plus. Je crois que c'est avant de se poser la question de la technique et de la solution, c'est le système de valeurs qu'il faut changer. Et il faut commencer à se dire, peut-être pas toujours moins, mais après tout, si, toujours moins de matière, consommer moins, répartir mieux, moins de biens, plus de liens, plus de coopération, moins de compétition, plus de communautés, moins d'individus, plus ensemble, mieux ensemble, moins de solitude. Enfin, c'est le fonctionnement général de nos mentalités qu'il faut...
qu'il faut interroger et transformer, mais c'est pas facile parce qu'on est, moi y compris, hein, on est complètement conditionné par, par le bain médiatique, par, une fois de plus, la télévision est un agent très puissant. Je sais que c'est compliqué à dire, mais souvent quand les gens me demandent qu'est-ce qu'il faut faire, j'ose à peine leur dire, mais regardez-moi, ne regardez pas la télévision, mais parfois c'est très difficile, parce que c'est comme un ancien fumeur, il a beaucoup de mal à se séparer de la cigarette, donc il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vivre sans télévision, ils n'imaginent même pas que c'est possible, mais regardez-moi la télévision, quoi. On est aliéné, c'est-à-dire que depuis 30 ans, on a quand même subi un bain idéologique, une imprégnation culturelle très forte sur toutes ces valeurs de toujours plus, de compétition, d'individualisme. Et c'est tout ce schéma mental dont il faut essayer de se déprendre pour inventer d'autres. Pas inventer, parce que ce n'est pas non plus une invention miraculeuse. C'est des choses assez simples dans leur expression, mais réorienter totalement notre système de valeurs.
Et pour ce faire, justement, il y a le défi d'en prendre conscience collectivement en tant que société, mais en parallèle, il y a l'entreprise aussi. On imagine, sans vouloir avoir l'air cynique, mais que la réforme ne viendra pas justement de l'entreprise, ne viendra pas de ceux qui profitent peut-être un peu plus du système. Donc, il va falloir leur imposer aux entreprises des politiques plus responsables au bout du compte ou...
Oui, mais le terme d'imposer est toujours, c'est comme le terme de sacrifice qu'on utilisait tout à l'heure. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à la démocratie, à l'esprit de la démocratie, et se rappeler que la démocratie, c'est le peuple qui, collectivement, après en avoir réfléchi et discuté, fait passer la loi par l'intermédiaire de ses mandataires. Et la loi, elle impose, mais elle protège la société aussi. Elle dit, écoutez, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes et donc, collectivement, nous avons décidé qu'on va poser telle règle. Quand vous avez un feu rouge au coin de deux avenues, c'est pas une contrainte. Ou peut-être c'est une contrainte parce que ça force l'automobiliste à s'arrêter, sauf que s'il ne s'arrêtait pas, il y aurait des accidents d'automobilistes quatre fois par jour. Donc c'est une mesure utile à la collectivité. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. La deuxième chose, c'est par rapport à ces hauts revenus dont on a parlé, je ne sais plus si on a parlé du revenu maximal admissible, ça passe par la loi. Et puis ça s'est fait dans des mesures très concrètes d'imposition, sur des tranches d'imposition au-delà d'un certain plafond de revenus. C'est quelque chose qui a été utilisé très largement à partir du New Deal aux États-Unis et puis dans tous les pays européens et occidentaux dans toutes les années 50 et 60. Et ça paraissait tout à fait normal aux gens. Donc on a dit il y a un certain degré d'enrichissement qui n'est pas admissible. Mais ceci dit, on a besoin d'entreprises, on a besoin d'une vie économique, on a besoin que dans le cadre de ces règles collectivement posées, il y ait des agents économiques, des entrepreneurs qui fassent leur boulot. Et c'est tout à fait utile. Mais dans le cadre de ces règles, et puis on peut aussi se dire, mais l'entreprise, il n'y a pas que le seul modèle de l'entreprise qui est possédé par Monsieur X ou Madame Y, très talentueuse, qui a le capital et qui prend le maximum du profit et qui ne cherche que le maximum du profit. On peut aussi se dire, mais l'entreprise, on peut faire la démocratie dans l'entreprise.
Avec le système coopératif, par exemple ?
Avec le système coopératif, avec le principe un travailleur, une voix, on décide ensemble, tout le monde se sent propriétaire de l'entreprise, du bien commun, on décide ensemble ce qu'on fait des bénéfices quand il y en a. Est-ce qu'on les répartit ? Est-ce qu'on les réinvestit ? On est soucieux de son inscription dans la communauté. Et tous les exemples qu'on a, généralement, c'est des entreprises qui fonctionnent bien. Et ça, on peut d'autant plus se poser la question quand même que depuis l'été 2007, on peut dire que le capitalisme, il n'est pas très brillant. C'est-à-dire que toutes ces entreprises et ces banques qui étaient aux mains de ces oligarques et qui disaient le marché, la privatisation, la libre entreprise, ils ont perdu des milliards de dollars ou d'euros. C'est les nôtres, en plus, ces milliards. Ils viennent à genoux presque devant l'État pour demander de les renflouer et ils voudraient qu'on maintienne ce même système d'entreprise alors qu'ils ont eux-mêmes prouvé qu'ils géraient mal. On peut aussi se reposer la question de l'entreprise. Rester dans l'économie de marché, dans une certaine mesure, parce qu'il y a des domaines dans lesquels l'économie de marché ne doit pas aller. Mais dans le cadre de l'économie de marché, on peut aussi imaginer des entreprises sur le modèle coopératif où les travailleurs ont leur mot à dire.
Oui, ou la finalité, au bout du compte, et la finalité du système qui serait redéfinie de cette façon-là, ce ne serait plus le profit, mais ce serait le bonheur, au bout du compte.
Ou en tout cas, le bien commun, parce que le bonheur...
C'est large.
Ouais.
En terminant, Hervé Kempf, c'est des réflexions que vous portez à travers des essais, articles, rencontres. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une ouverture, que tranquillement, justement, le système, on ne fait plus simplement de parler de nécessité de changement, mais que le changement, il se fait? Et en fait, je lisais aussi dans le livre, vous disiez, s'il se fait, est-ce qu'il se fait un peu par cellule qui manque d'organisation, ou si il y a un mouvement global qui est en train d'être perçu aussi?
Oui, il y a un mouvement global, mais il est... En même temps, les choses vont vite en ce moment, donc j'ai tendance à être optimiste. Mais un mouvement global, au moins de prise de conscience chez beaucoup de nos concitoyens, à la fois quand même de l'ampleur de cette crise environnementale, et prise de conscience aussi de ces phénomènes d'inégalité, qui n'étaient pas aussi évidents maintenant, qui n'étaient pas aussi évidents il y a 5-6 ans qu'ils le sont maintenant. Et le désir de changement de plus en plus grand. Puis je crois qu'il y a un sentiment de dégoût par rapport à tous ces milliardaires là qui ont mis le système à bas, qui s'empiffrent, qui sont très souvent corrompus, et puis qui ont mis l'économie dans la situation très difficile dans laquelle on est, puisque maintenant, en plus, il y a déjà des milliers, des millions de chômeurs à cause de cette conduite. Donc il y a un profond dégoût dans une très large partie de la société. Après, le défi, c'est ce qu'on va réussir à transformer ce niveau de prise de conscience, ce niveau de dégoût, du moins de rejet du système, en quelque chose de positif. Et là, je ne sais pas encore si... je souhaite que ça va se faire. Je souhaite que toutes les organisations, les mouvements, toute la société civile arrivent à se regrouper, à surmonter ces différences pour faire une bataille commune, parce que ça va être une bataille, parce que malgré tout, les oligarques ne vont pas, les milliardaires, les classes dirigeantes ne vont pas lâcher leur bout de gras aisément. Donc il va falloir pousser fort, et là ça va passer par un mouvement politique au très bon sens du terme pour pousser. Mais globalement, je trouve quand même qu'il y a une évolution positive, mais qui est poussée par la réalité aussi. Parce que la crise écologique, elle est là, et puis depuis 2007, on voit les choses bouger très rapidement.
Et pour les gens qui nous écoutent, pour revenir un peu à l'individu et qui est inséré dans ce collectif-là, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour qu'ils puissent peut-être aussi pousser un peu dans le sens qu'on souhaite éventuellement pour permettre cette réinvention nécessaire de notre système?
À titre personnel ou individuel, il y a toujours ce travail de désaliénation, c'est-à-dire essayer de prendre du recul par rapport à cette consommation dans laquelle on nous entraîne, et autant que possible vivre sobrement. Et puis, la deuxième chose, c'est de s'engager. C'est aussi important, je dirais. Alors, chacun à son niveau, on le fait. Il y a des gens qui se sentent à l'aise dans une association. Il y a des gens qui vont s'investir dans le marché populaire à côté de chez eux. Il y a des gens qui ont dans la politique, donc qui vont réinvestir dans la politique. D'autres dans les syndicats. Je dirais, à la limite, ou dans une radio communautaire. Peu importe la forme d'action, l'essentiel est d'aller dans cette démarche, de sortir de sa petite bulle personnelle, de sa petite bulle familiale, et d'aller vers l'être ensemble et vers la bagarre, je suis très non-violent, mais cet effort commun pour... alors, chacun à son niveau, je dirais, mais sortir de soi-même pour aller dans l'expression ou l'outil qui nous convient le mieux, dans un travail collectif de changer le monde.
Et pour poursuivre, en fait, les réflexions en votre compagnie, on invite les gens à jeter un coup d'œil à cet essai, donc, disponible chez Seuil, pour sauver la planète, sortez du capitalisme, le dernier né, donc, d'Hervé Kempf. Il y en a d'autres également avant. Hervé Kempf, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au revoir.